Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, avez-vous déjà réfléchi au fait qu'il faille une bouche pour dire « je » ? Encore plus troublant, il faut cette bouche-là, la mienne, pour que moi, je parle, et que je sois identifiée comme celui qui parle, par ceux qui m'observent ou m'écoutent. Autrement dit, vous l'aurez compris, quel est le rapport entre notre corps et notre identité ? Sommes-nous une âme qui habite un corps ? Sommes-nous notre cerveau uniquement ? Existerions-nous sans corps ? Qu'est-ce qui différencie mon corps d'un autre ? Finalement, qui sommes-nous ? Quelle est notre identité ? Pour en parler avec nous, Michel Serre nous a fait l'honneur de venir dans notre studio avant la séance hebdomadaire de l'Académie française. Michel Serre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Faut-il le rappeler, vous siégez à l'Académie française depuis 1990, date de votre élection. Vous vous occupez donc le fauteuil 18, qui était le fauteuil d'Edgar Faure. Vous êtes donc professeur d'histoire des sciences à l'Université de Stanford aux États-Unis depuis 1984. Mais vous êtes avant tout un philosophe tout terrain, puisque vous avez exploré les thèmes de la science, de la communication, ainsi que de la réflexion sur le corps humain et le tout avec pédagogie. Dans cette émission, nous parlerons de l'évolution de l'humanité que vous qualifiez d'hominescence. Nous évoquerons notre identité au regard des autres, de la société, et nous nous intéresserons à notre corps, vitrine ou non, de notre âme. Mais tout d'abord, Michel Serre, débutons par l'identité, à ne pas confondre avec les multiples appartenances. Alors Michel Serre, voilà, quelle
est... c'est une confusion qui est faite sans arrêt, et surtout en cette période d'élection présidentielle, on parle beaucoup de l'identité nationale, alors que voici 10 ou 15 ans, je m'efforce ou je m'évertue à tenter de dire que dès qu'on parle d'identité culturelle, d'identité nationale, d'identité sexuelle, d'identité, etc., on commet une faute assez grave.
Vous parlez
et cette
même...
grave, cette faute continue à être commise partout. Alors la voici. Lorsqu'on prend par exemple la carte d'identité, c'est la meilleure manière de définir l'identité. Sur votre, sur ma carte d'identité, il y a un certain nombre de renseignements. Par exemple, votre nom propre, mais votre nom, ce n'est pas le vôtre, puisque ce nom-là est porté par un sous-ensemble assez important de la population. Évidemment, si vous appelez Martin, ce sous-ensemble est très important. Si vous appelez Lévi, il est très important. Je crois que Serre est le 56e nom seulement porté en France, mais il y a des Sierra en Espagne, il y a des Serra au Portugal, etc. Ça veut dire la montagne. Donc, ce n'est pas vraiment mon identité. J'appartiens au sous-ensemble des gens qui s'appellent Serre, au sous-ensemble des gens dont le prénom est Michel, au sous-ensemble des gens qui sont nés en telle année, tel jour, tel mois, au sous-ensemble des gens qui sont nés à tel endroit, au sous-ensemble des gens qui sont mâles et non pas femelles, et ainsi de suite. Par conséquent, tout ce qui est là sur ma carte d'identité ne fait que désigner des appartenances. Alors, la différence est très simple. L'identité est marquée dans les sciences logiques ou mathématiques par une triple barre horizontale. L'égalité, c'est une double barre, vous voyez.
Oui.
L'identité, c'est une triple barre. Il y a A identique à A. Et par conséquent, je dois dire « je suis je ». Et c'est tout. Mais tout le reste, ce sont des appartenances, et c'est signalé par, vous savez, le petit signe epsilon qui ressemble à un euro.
Oui.
L'élément fait partie de l'ensemble, petit a fait partie de l'ensemble A. Donc, dire identité nationale, culturelle, sexuelle, etc., c'est confondre ces deux signes-là. Mais enfin, bon.
Même dire « je suis une femme » ou « je suis un homme », c'est déjà parler d'appartenance.
C'est une vous appartenez au sous-ensemble des femmes, au sous-ensemble des hommes, et ainsi de suite. Bon. Et donc, on fait une faute logique grave lorsqu'on confond les deux. Mais enfin, tout le monde fait des erreurs de logique. Moi, le premier, j'en fais 7 ou 8 par jour, bien sûr. Mais à côté de l'erreur logique, confondre identité et appartenance est un crime moral et politique.
Pour parler de racisme,
parce
je
que
crois.
C'est le racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme ? Le racisme, c'est tout simplement confondre l'identité et l'appartenance. Tu es africain, tu es de telle couleur de peau, tu es, etc. Tu, c'est-à-dire toi, l'individu, tu es défini par ton appartenance à, aux gens qui ont telle couleur de peau, aux gens qui ont telle religion, tels qui ont telle langue, tel accent. On m'a bien assez dit quand j'étais petit que tu es gascon, parce que tu as l'accent du Midi. Bon, alors on se moquait de moi parce que, etc. Donc, c'était effectivement une confusion entre l'identité et l'appartenance. Or, au cours d'une campagne politique comme celle d'aujourd'hui, je suis confondu réellement et presque scandalisé que cette faute, qui est vraiment la définition même du racisme, continue à être commise. C'est-à-dire, non, il n'y a pas identité nationale, il y a une appartenance à une nation, il y a une appartenance à une confession, à une religion, à un sexe, mais non pas une identité.
Vous pensez en fait que ça aboutit à des dérives très facilement?
Mais oui, c'est des dérives assez graves. Et alors, bon, alors qu'est-ce que l'identité, c'est je égale je, c'est pas un renseignement très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que je puis, moi, être identifié comme la somme de multiples appartenances.
Un carrefour.
Et oui, je fais partie à la fois des gens qui savent un peu de latin, qui savent un peu de grec ou d'anglais, qui savent des mathématiques, qui sont chauves, qui aiment la montagne, qui ont été marins. J'ai dans ma vie appartenu à 1001 sous-ensembles. Et la réunion de ces sous-ensembles au moment de ma mort, quand la réunion sera terminée, parce que j'espère bien, avant de mourir, faire partie encore de sous-ensembles nouveaux, parce que c'est ça, l'adaptation et l'existence riche, si vous voulez, et à un certain moment, on dira, bien voilà, l'identité, c'est la somme de ses appartenances.
Alors, dans votre livre « Hominescence », vous expliquez que finalement, notre identité, c'est notre ADN, c'est cette série de codes interminables.
Exactement.
Qui fait que nous sommes uniques.
Si vraiment je pourrais dire mon identité, alors mon nom propre, c'est pas Michel Serres. C'est au contraire la suite de la combinaison des quatre lettres du code génétique qui spécifie effectivement mon ADN. Mais c'est très curieux. Mon nom propre, je ne le connais pas. Le connaissez-vous, le vôtre? Vous ne connaissez pas votre nom propre, la suite de votre ADN, vous ne la connaissez pas.
Bien sûr.
Mais la plupart des gens ont un nom propre et on le sait depuis très peu de temps, c'est cette suite d'ADN. Mais le paradoxe, c'est que justement ce nom propre, nous ne le connaissons pas. C'est amusant.
Ouais. Justement, j'ai parlé d'Hominescence, qui est donc un de vos nombreux livres que vous avez publié aux éditions du Pommier. L'Hominescence, c'est un mot, un néologisme que vous avez créé.
Oui.
Qui signifie quoi alors?
C'est une contraction
d'homme, d'humanité?
Il y a un certain nombre de mots en français qu'on appelle des incoatifs. C'est les mots comme adolescence, phosphorescence, luminescence, etc. Les mots qui se terminent à SC, vous savez, sens, comme ça... phosphorescence, arborescence, etc. Et ces mots incoatifs désignent l'évolution, vue de très près, l'évolution vers quelque chose, une sorte de passage ou de croissance ou d'évolution vue de manière assez locale. Et en général, lorsqu'on parle de l'évolution humaine, les paléo-anthropologues comme Yves Coppens ou des gens de ce genre, de cette discipline, définissent ce mouvement qu'on appelle l'hominisation. Nous étions une espèce assez proche du chimpanzé ou du bonobo, et peu à peu, sur des millions d'années, nous sommes mis debout et puis nous avons évolué, comme vous le savez. On appelle ça l'hominisation. Très bien. Donc, je n'allais pas prendre ce mot-là, qui était déjà pris pour des significations bien définies, mais il se trouve que j'ai cru pouvoir dire qu'entre 1950 et 1970, il y avait eu des évolutions réellement décisives, au moins dans le monde occidental. Alors j'en donne deux ou trois. Par exemple, nous étions 1 milliard au moment de ma naissance, on est 7 milliards ou 6 milliards et demi aujourd'hui d'habitants. Dans les pays occidentaux, l'espérance de vie est passée de 30 ans en 1850 à 84 ans pour nos compagnes aujourd'hui. Le nombre des paysans ou des agriculteurs et cultivateurs est aujourd'hui de 2,3%, alors qu'au début du XXe siècle, il était pour des pays analogues aux nôtres autour de 75%. Vous voyez, c'est fait une chute vertigineuse. Donc, il y a eu, entre 1950 et 1970, une coupure vraiment importante, puisque depuis le néolithique, nous étions tous plus ou moins des agriculteurs, et à partir de là, plus personne n'est agriculteur, plus personne n'a d'expérience directe du rapport à la terre. Et là, il y a eu donc une coupure vraiment assez importante que je décris, et je lui ai donné le mot d'hominescence, parce que je ne pouvais pas dire vraiment qu'il s'agissait d'hominisation, il y a bien un moment d'hominisation. Alors j'ai pris un mot un peu plus discret, un peu plus humble, un peu plus local, un peu plus doux, pour dire oui, l'homme a beaucoup changé, son rapport à la nature a changé, le rapport à son corps a changé.
Une deuxième évolution en quelque sorte ?
Oui, il y a eu là une évolution si importante que par exemple, du point de vue de l'agriculture, on peut dire que le néolithique est fini. L'agriculture commence au néolithique et elle finit là. Par exemple, nous n'avons jamais connu depuis la guerre de Troie, nous n'avons jamais connu d'homme d'État qui n'ait jamais vu la guerre. Or, aujourd'hui, lorsqu'au Bahamas, M. Blair, M. Bush et M. Aznar se sont réunis, c'était trois jeunes gens qui dirigeaient des États sans jamais avoir connu la guerre. Ça n'était jamais arrivé. Il n'était jamais arrivé dans l'histoire occidentale que nous connaissons que nous passions 60 à 65 ans sans conflit. Voyez, donc, il y a des éléments que j'amène dans cette liste qui tente à montrer que nous venons de passer une ère historique vraiment décisive.
Un fossé générationnel.
Ce n'est pas générationnel, c'est transhistorique. C'est beaucoup plus important que ça. Des fossés générationnels, il y en a toujours. Il y en a à chaque génération même. Tandis que là, si vous dites le néolithique est terminé, ça fait quand même une sorte de laps de temps de 4 à 6 000 ans dont l'ère vient de s'achever, vous voyez. De la même façon, quand on pense à la croissance gigantesque de la démographie ou à l'espérance de vie, je dis souvent en plaisantant qu'aujourd'hui, il y a 50 à 55% de divorces, et c'est pourtant aujourd'hui que les hommes et les femmes mariés restent le plus longtemps ensemble. Et oui, parce qu'au XIXe siècle, lorsque deux jeunes gens juraient fidélité pour la vie, ils juraient fidélité pour 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, ils doivent jurer fidélité pour 60 ans.
Et oui.
C'est plus le même mariage, c'est plus le même couplage.
C'est
vous voyez
l'évolution.
Et par conséquent, les institutions d'aujourd'hui, qu'elles soient civiles ou politiques, ou même juridiques, me paraissent mortes. C'est-à-dire, elles ont été construites sur une société qui n'existe plus. La politique, l'université, etc., ont été construites et pensées sur une société qui n'existe plus.
Voilà. Alors, si nous nous arrêtons un peu sur les années 60-70, hein, où justement on observe vraiment cette coupure, il y a également les progrès de la médecine qui vont avec, et notamment...
Oui, la douleur.
La douleur,
par exemple,
les greffes.
La douleur, il y a deux choses. Quand on voit, par exemple, des caricatures de Daumier, tout le monde croit que ce sont des caricatures, ce sont des portraits de visages défigurés par une douleur quotidienne et nécessaire. Lorsque, par exemple, mes étudiants ou mes collègues critiquent la morale doloriste de nos ancêtres, ils n'ont plus aucune idée de comment vivaient nos ancêtres, puisque cette douleur en question était en effet nécessaire, quotidienne, et que toutes les morales étaient et n'étaient que des exercices pour supporter cette douleur-là. Or, aujourd'hui, avec la masse des antalgiques, des analgésiques, etc., la douleur, je ne dis pas qu'on ne souffre plus, bien entendu, nous souffrons encore beaucoup, mais ces douleurs inévitables sont un peu écartées. Autrement dit, on peut rencontrer aujourd'hui des médecins qui disent qu'ils ont reçu deux ou trois fois dans la journée des sexagénaires ou des septuagénaires qui n'ont pas souffert de toute leur vie. Oui, en raison justement de cette abondance d'anesthésiques, d'antalgiques, etc. Oui.
Donc
le rapport à la douleur a complètement changé.
Souffrir n'est plus forcément une nécessité pour se prouver que l'on existe.
C'est-à-dire que, prenons un autre exemple dans le rapport au corps. Beaucoup de gens ont dit que dans les années 60-70, les hommes et les femmes se déshabillaient sur les plages en disant « Ah, c'est une révolution à la fois morale et sexuelle ». Mais pas du tout. Ils se déshabillaient pourquoi ? Parce qu'ils étaient visibles et que leurs ancêtres n'étaient pas visibles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une seule maladie qui définitivement laissait sur le corps et sur la peau des traces, et des traces graves.
C'était pour
des
se cacher.
Des bubons, évidemment. Mmh. On s'habillait pour se cacher. Rappelez-vous qu'au XVIe siècle, par exemple, la fraise... Vous savez, cette espèce de collerette horizontale que portaient les nobles n'était là que pour cacher le collier de Vénus, qui était l'abominable trace de la grande vérole qui était entrée sur le sol européen autour du 15e, 16e siècle, vous voyez, et où les bubons éclataient et cela faisait des cicatrices géantes et purulentes, abominables. Alors, ils portaient la fraise pour la dissimuler. Mais, cher ami, vous montrez votre cou comme moi aujourd'hui, parce qu'il est simplement exempt de ces traces-là. Oui. Donc, le rapport au corps a été décisivement transformé par la médecine. La médecine, autour des années, disons, 50 à 70 au moment où sont intervenus non seulement les antalgiques, mais aussi tout ce qui était la lutte contre les maladies infectieuses.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Michel Serres, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission Éclairage. À tout de suite.
La médiathèque de Canal Academy, c'est plus de 800 émissions en libre téléchargement. Vous avez aimé ce programme ? Vous avez apprécié cette émission ? Vous aimeriez réentendre cet académicien ? Retrouvez cette émission dans la médiathèque de Canal Academy. Le téléchargement est gratuit.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Michel Serres de l'Académie française, éminent philosophe. Avec vous dans cette seconde partie de l'émission, Michel Serres, j'aimerais vous poser la question de la mort et de la mort cérébrale. Une notion qui est apparue très récemment.
Très récemment. Nous avons dans la partie précédente parlé des grands changements qui sont intervenus, au moins dans l'Occident, ce qu'on appelle les pays occidentaux, juste après la Seconde Guerre mondiale, ou pendant et ou après la Seconde Guerre mondiale. Et les changements, en effet, ont été importants pour l'espérance de vie, nous avons dit, mais la vie est bloquée entre deux événements, la naissance et la mort. Alors on peut parler des deux, si vous voulez. Et ce qui a changé, en effet, c'est d'abord la mort. Pourquoi ? Premièrement, juste avant la guerre, il y avait l'inquiétude et l'angoisse de la mort que tout homme ressent toute sa vie. D'abord sa mort propre, mais aussi la mort des gens qu'il aime, ou des gens qu'il déteste d'ailleurs tout aussi bien. Et par conséquent, la mort était considérée comme essentiellement individuelle. Et je me rappelle encore, dans les années 70-75, des dialogues où j'avais intervenu à la radio avec Jean Kilevitch qui avait fait un livre sur la mort, et Ionesco qui en avait fait un autre. Ils étaient incapables de penser une autre mort qu'individuelle. Incapables de penser, simplement, ils avaient 25 à 30 ans de plus que moi. Voyez. Or, moi, je leur proposais trois morts. Ils étaient stupéfaits de ces trois morts. La première, c'est la mort individuelle, la vôtre, la mienne, etc., celle de ma petite amie ou de votre mari, etc., de vos enfants. Deuxièmement, une autre, c'est de dire que nous sommes une civilisation qui, paradoxalement, repose sur une antiquité morte. Il n'y a plus de langue grecque classique, il n'y a plus de langue latine classique, on ne parle plus, on n'écrit plus de hiéroglyphes, etc. Donc, il y a des civilisations qui ont disparu. Rome antique a disparu, la Grèce antique a disparu, l'Égypte antique a disparu, les Assyro-Babyloniens, etc., etc. Donc, nous savons désormais qu'il y a des cultures mortes et que la nôtre peut mourir, aussi bête que ça, vous voyez. Par conséquent, il y a une seconde mort qui, là, est collective, historique et collective. Elle n'est pas seulement individuelle, elle est historique et collective. Mais encore ça, Jean Kilevitch et Ionesco auraient pu l'accepter. Avec un peu de culture, ils étaient d'accord de penser qu'en effet, notre civilisation avait cette originalité-là d'être née sur des décombres.
Oui.
Voilà. Mais à nous, 1945, était intervenue une troisième mort, qui alors là qu'ils ne comprenaient plus. C'est qu'après Hiroshima et Nagasaki, où les États-Unis ont lancé sur ces villes la bombe A, est apparue à l'horizon de l'humanité une possible mort, non pas collective, mais générique. Est-ce que la science est assez forte désormais pour mettre en danger non pas seulement telle et telle région, non pas seulement tel et tel peuple ou telle et telle culture, mais l'humanité tout entière ? Alors le soupçon d'éradication de l'espèce humaine est apparu soudain à l'horizon de l'histoire humaine, avec une sorte d'angoisse spécifique. Et cette mort était nouvelle. Elle n'avait jamais eu lieu, de telle sorte que quand vous la décriviez devant les gens de ma génération précédente, ils ne comprenaient pas de quoi je parlais, du tout. Pour eux, la mort, c'était la leur. La mort, c'était à la rigueur celle des Romains ou des Grecs. Mais la mort de l'humanité, ils ne pouvaient pas. Or, nous, maintenant, nous savons que non seulement les civilisations sont mortelles, mais que les espèces sont mortelles. Et les sciences ont bien mis en valeur les cinq grandes éradications il y a des millions d'années, des centaines de millions d'années, de 80 à 95% des espèces vivantes. Par conséquent, nous savons que les espèces vivantes peuvent être mortelles, voyez, et que l'espèce humaine ne fait pas exception à cette histoire-là. Voyez. Et ça, c'est une nouveauté bouleversante. Voyez. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ce qu'on appelle l'écologie ou ce qu'on appelle les préoccupations sur le climat et autre chose, qu'est-ce que c'est au fond ? C'est l'idée que nous sommes en danger. Mais quand on dit « nous », c'est pas les Français, les Allemands ou les Japonais, pas du tout, c'est nous,
c'est
les hommes.
C'est l'ensemble de l'humanité.
Et donc, il y a là un horizon nouveau sur les questions de la mort. Donc, il y a une mort nouvelle.
Alors, voilà. Avant d'en venir à notre rapport aux autres, je voulais savoir...
Et puis, il y a la naissance, après.
Et oui,
avant la naissance, c'est-à-dire au moment même où nous inventions une mort nouvelle, apparaissait une naissance nouvelle, puisque... autrefois, nous faisions plus ou moins des enfants à l'aveuglette, puisque, au fond, la manière de qu'un ovocyte se développe n'est connue que depuis le XVIIe siècle, c'est-à-dire ce que font vraiment un homme et une femme après le coït, après la conception. Mais la naissance, tout d'un coup, après un certain nombre de législations, c'est devenu un acte qu'on pouvait de mieux en mieux maîtriser. Il y a eu une sorte de maîtrise de la naissance, et puis de maîtrise, non seulement de maîtrise de la date de la naissance, nous allons faire un enfant si nous le voulons et quand nous le voulons, mais il y a eu aussi une maîtrise presque médicale et pharmacologique avec toutes les interventions qu'on peut faire sur des femmes stériles ou des hommes stériles. Vous voyez. Donc là, de nouveau, la longueur de la vie a changé, la fin de la vie a changé collectivement, historiquement, et la maîtrise de la naissance a aussi changé. Et ça, c'est des nouveautés qui font partie de ce programme que j'appelle Omniscience.
Avec cette nouvelle évolution de l'homme, cette nouvelle étape, quelle est notre identité face à ce corps ? Par exemple, quand ce corps meurt, mais meurt d'une mort cérébrale, est-ce que nous sommes notre cerveau ?
C'est-à-dire, à cette époque-là, au moment où on faisait des greffes, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'organes pour les transporter d'un organisme à un autre, il a fallu savoir quand on pouvait prélever un organe sur un organisme donné. Et donc, il a fallu avoir une définition à la fois médicale et juridique de la mort. Alors, à ce moment-là, certains experts ont proposé l'électroencéphalogramme plat, c'est-à-dire une mort cérébrale, alors que l'organisme se trouvait dans une sorte de coma 4, comme on dit, et à ce moment-là, on pouvait transplanter en effet un rein ou un organe dans un autre organisme. Il fallait donc avoir une définition de la mort. Et ça, c'est une définition qui est médicale, qui est opérationnelle, qui est juridique, mais qui n'est pas philosophique, bien entendu.
Oui.
Elle n'implique pas que nous soyons un cerveau, que nous soyons un sexe, que nous soyons, etc. La preuve, c'est qu'on a défini cette mort bien avant de savoir que votre nom ou votre nom propre était justement cette succession de codages sur l'ADN.
Si nous poursuivons notre émission, vous évoquiez justement l'humanité, le rapport que l'on entretient avec les autres hommes. Est-ce que nous existons seulement parce qu'on a le regard des autres qui se porte sur nous?
Pas seulement. D'abord, il y a une première chose qui est la solitude. Et la solitude, c'est une sorte de condition, de contrainte dont la plupart des gens se plaignent aujourd'hui. Vous le savez, je suis seul, je suis isolé, je n'ai pas de compagnon ou d'appui. Donc, il y a une sorte de plainte généralisée de la solitude. Mais en regard de cette plainte-là, il existe aussi une nécessité de la solitude, à savoir qu'à force de médias, à force de télévision, de radio, à force de téléphone portable ou d'Internet, à force de liaison, vous voyez, on a l'impression que certains de nos contemporains ne sont jamais seuls. Même la navigatrice solitaire qui vient de faire le bouclage de sa traversée contre vents et marées, ou vent et courant, était sans arrêt en liaison radio ou phonique avec tel et tel poste au loin.
Là, c'est le marin qui parle.
C'est le marin qui parle. Même le cosmonaute est seul, il ne peut pas être plus seul que lorsqu'on est à bord d'un satellite qui se trouve à des milliers de kilomètres de la planète. Et cependant, il est toujours en liaison, etc. Et je dis souvent d'ailleurs que les lettres d'amour sont nées seulement il y a 10 ans. Et oui, bien sûr, parce que vous faites allusion à mon passé de marin. Moi, lorsque j'étais marin, j'étais jeune, j'écrivais à ma petite amie. Et je lui écrivais de Djibouti, par exemple, on mettait la lettre à la poste, et je lui décrivais mes états d'âme du mercredi après-midi. Elle recevait la lettre un mois après, elle répondait tout de suite en décrivant ses états d'âme, et je recevais la lettre à Yokohama 2 mois après. Et vous savez, est-ce que c'est vraiment des lettres d'amour ? Parce que quand je recevais sa réponse, ça ne correspondait plus du tout, ni à mon état d'âme, ni au sien. Aujourd'hui, avec un portable qui fait le tour du monde, je peux en temps réel, communiquer à ma petite amie mes états d'âme, elle me dit les siens, et par conséquent, nous sommes en communion constante. Et donc, les lettres d'amour datent en effet du portable. Voilà. Et ceci, sans plaisanterie, pour dire en effet que, alors, on peut repartir à zéro et dire qu'il y a deux constructions de l'âme humaine ou de la psyché. La première est en effet solitaire, car nous prenons les grandes décisions de notre vie tout seul, nous mourrons tout seul, nous souffrons tout seul, nous naissons tout seul. Donc les grands moments de l'existence sont dans une sorte de face-à-face solitaire, mais que la construction, cependant, surtout du langage. C'est-à-dire, c'est avec le langage et par le langage que nous nous construisons, et par conséquent, c'est avec le dialogue, comme nous en avons aujourd'hui avec vous, qu'en effet, la psychologie se construit et se développe.
Et justement, sur la langue, hein, vous avez écrit justement « Langue repère de l'identité ». Un pays qui perd sa culture, c'est un pays qui perd son identité, et un pays qui n'a pas d'identité perd ses habitants, enfin, en rapport avec, avec la langue.
Toutes les grandes nations qui ont voulu subjuguer et esclavagiser une autre nation lui a ôté sa langue. Il est vrai que...
Mais comme un repère identitaire.
Tel et tel empire a imposé sa langue au détriment de la langue native du pays qu'il avait conquis. D'ailleurs, je me demande souvent si les linguistes ne se trompent pas gravement lorsqu'ils décrivent avec quelle vitesse les Gaulois ont parlé latin. Je crois en effet que les Gaulois étaient quelques millions et que quand Jules César a quitté la Gaule, il n'était plus que quelques centaines de mille, des quelques vieillards et quelques enfants, et que la latinisation s'est vite faite, vous voyez ce que je veux dire. Et là, quand même, c'est un phénomène qui n'est pas linguistique, qui est un phénomène d'autoritarisme, de despotisme. Vous voyez, voilà. Alors oui, c'est vrai que la langue est le noyau de la culture est le noyau de l'appartenance culturelle.
De l'appartenance culturelle.
Non pas de l'identité, mais de l'appartenance culturelle. Alors sur ce point, il faudra en parler beaucoup, parce que c'est quelque chose que nous discutons assez souvent à l'Académie française, puisque nous sommes les gardiens de la langue, en quelque manière, et qu'aujourd'hui, la langue française est en effet en danger pour plusieurs raisons dont les académiciens, peut-être, n'ont pas conscience encore. Alors, je le dis, parce que je le dis solennellement ici. Un pays a une langue parce que cette langue se pratique entre adultes, entre enfants, et que cette langue est l'outil de communication de cette nation-là. Bon, ce n'est pas tout. Une langue se définit aussi par ses corpus. Je veux dire que s'il y a des savants en France, c'est qu'il y a des milliers de volumes de corpus de mathématiques, d'astronomie, de chimie, de physique, rédigées en français depuis le XVIe, XVIIe siècle, et qui, dans les bibliothèques, occupent un volume considérable. Dès lors que nos amis savants abandonnent le français pour l'anglais, ils tuent ce corpus-là d'une certaine manière. Or, la langue n'existe, la langue française n'existe de la façon dont nous l'utilisons tous les deux en ce moment, c'est-à-dire la langue vernaculaire courante. Elle existe comme un iceberg. Et un iceberg, vous le savez, a la partie visible et puis la partie immergée. Et cette partie immergée, c'est les corpus dont je parle. Alors, il y a un corpus de science, mais aussi il y a un corpus de littérature. Alors ça, celle-là, elle est plus connue, si vous voulez. Mais il n'y a pas que la littérature, il n'y a pas que Corneille, Racine, Molière ou Voltaire. Il y a aussi tout le corpus scientifique à côté, il y a Lavoisier, Poincaré, tous ces gens-là, vous voyez. Mais il y a aussi un corpus juridique, mais il y a aussi un corpus de toutes les autres disciplines, de la charpente, de l'électricité, de la musique, de tout ce vocabulaire-là. Et si, dans le vocabulaire courant, on quitte, dans ces disciplines-là, le français, alors on ne vit plus sur nos propres racines et cet iceberg n'aura plus que sa partie visible.
Mais vous, vous enseignez aux États-Unis, vous enseignez en français ?
En français, oui. Moi, je suis exportateur, je ne suis pas importateur.
C'est justement avec ce regard de, entre guillemets, expatrié que vous vous exprimez
Non, ce n'est pas avec le regard d'expatrié, c'est tout simplement parce que j'ai été scandalisé étant très jeune que dans la Sorbonne, dans les universités françaises, dans ma spécialité en philosophie, on enseignait à juste titre la philosophie grecque, la philosophie de langue latine, la philosophie de langue allemande, la philosophie de langue anglaise, mais qu'on laissait tomber de plus en plus la philosophie de langue française. Vous voyez, elle n'était plus éditée même. Et donc, je me suis mis à la tête d'une entreprise géante qui a consisté à republier le corpus des œuvres de philosophie en langue française. J'en ai publié jusqu'à maintenant 139 volumes. C'est-à-dire que je fais revivre le corpus en question, le corpus immergé. Vous voyez ? Et quand j'ai commencé cette entreprise, beaucoup de gens sont venus me dire « Mais pourquoi vous ne publiez pas le corpus des musiciens de langue française ?» Pourquoi ? Parce que si on joue Mozart et Bach, c'est qu'il y a un Köchel ou un BWV, bien entendu. Comme il n'est pas là pour Couperin et Rameau, on joue moins Couperin et Rameau, parce qu'il n'y a pas précisément ce corpus-là. Alors oublier le corpus qui fait partie de la partie immergée, c'est en grande partie tuer la partie émergée.
Alors je vous propose de marquer une seconde courte pause, Michel Serre, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. A tout de suite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe, vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Suite de notre émission en compagnie de Michel Serre, avec qui donc nous parlons du corps, de l'identité. Dans cette dernière partie, Michel Serre, nous allons revenir un peu sur le corps. Alors je me suis appuyée en partie sur le dictionnaire, un dictionnaire du corps publié au PUF, sous la direction de Michela Marzano. Donc les philosophes ne se sont pas forcément vraiment intéressés au corps, plus aux passions de l'âme, on va dire.
Il y a une tradition assez profonde qui date des Grecs, en particulier de Platon, qui dit que le corps est le tombeau de l'âme, que le corps est un tombeau. Il y a une sorte de mépris du corps. Et on reproche souvent à nos ancêtres de parler moins du corps. Et moi, je les défends un peu, alors que j'ai beaucoup parlé du corps, je les défends un peu pour une raison très simple. C'est que le corps de nos ancêtres était douloureux, était mortel, était difficile à vivre, vous voyez. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur le corps. Nous pouvons parler du corps parce que nous sommes contents de notre corps. Nous l'exhibons sur les plages parce qu'il est visible. Nous ne souffrons plus comme ont souffert nos ancêtres, et ainsi de suite. Et par conséquent, on peut parler du corps aujourd'hui, mais je n'aime pas trop, moi, ces critiques récurrentes qui témoignent de l'incompréhension assez profonde de l'état dans lequel se trouvaient nos ancêtres. Il ne faut quand même pas oublier que Louis XIV, entouré des plus grands médecins de son royaume, c'est-à-dire les meilleurs médecins du monde, a hurlé de douleur tous les jours. Il avait une fistule anale qui était inguérissable à cette époque. Aujourd'hui, une fistule anale, un petit coup de bistouri, 8 jours d'antibiotiques et personne ne souffre. Vous voyez, alors que lui a hurlé de douleur tous les jours. Vous voyez, donc l'état, si vous voulez, des corps à cette époque-là, était tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui. Alors, lorsque j'ai écrit Les Cinq Sens, puisque je l'ai écrit il y a longtemps,
en 91,
oui, ou Variations sur le corps, j'ai essayé en effet de parler du corps d'aujourd'hui. La première chose qui me paraît intéressante à dire sur notre corps, c'est la chose suivante. Regardez votre main. Regardez votre main. Hein, votre belle main, la mienne est moins belle. Et si vous la comparez par exemple aux pinces du crabe, la pince du crabe a pour fonction seulement de pincer. Si vous la comparez aux tentacules de la pieuvre, elle a pour fonction simplement d'enlacer. Si vous la comparez, je ne sais pas moi, au sabot de l'âne ou du bœuf, et il a une fonction d'appui. Et si je vous demande quelle est la fonction de la main, vous ne pourrez pas me répondre. Parce que la main n'est pas faite pour. Elle n'a pas cette finalité de pincer, cette finalité de porter le poids de l'avant du corps. Pourquoi ? Parce que avec la main, on peut frapper avec le marteau, faire signe, caresser, jouer du piano, donner une gifle, enfin je ne sais pas. Et il y a 150 utilisations possibles de la main et il y en a probablement 3000 à inventer encore, voyez, selon les outils qu'on a utilisés. Par conséquent, la main par rapport à l'organe équivalent de l'animal, il n'est pas définissable. Et de la même façon le cerveau, de la même façon, etc.
Oui.
Bon. Et par conséquent, la main est blanche. Je veux dire par là...
Elle est neutre.
Elle est neutre, c'est-à-dire blanc, ça veut dire à la fois sans couleur et la somme de toutes les couleurs, vous voyez. Et d'une certaine manière, quand on voit un homme ou une femme danser, la danse par exemple, c'est une gestuelle du corps extraordinairement différenciée et il n'y a pas un seul... danseur aujourd'hui ou chorégraphe qui refuserait l'idée que c'est terminé. On peut encore inventer 1000 autres gestes, on peut encore inventer 1000 autres pas, et ainsi de suite. De la même façon, j'étais assez sportif dans ma jeunesse.
Rudiman.
Et j'ai vu, j'étais spécialiste de saut en hauteur, j'ai vu trois manières de sauter en hauteur. Mm-hmm. Le rouleau, qu'on appelait le rouleau californien, puis ensuite ça a été le ciseau, puis ensuite ça a été le Fosbury Flop, vous voyez. Par conséquent, on peut inventer encore une quatrième manière de sauter en hauteur qui fera élever le champion 20 cm plus haut. Donc, il y a une sorte d'adaptabilité, de souplesse et de différenciation, si vous voulez, telle qu'aucun animal... Aucun animal ne jouit d'un corps d'une telle blancheur, c'est-à-dire d'une telle adaptabilité contingente. C'est-à-dire, le corps est finalement ce par quoi on invente. C'est l'inventeur perpétuel.
C'est une toile blanche que nous allons
peindre. On n'a jamais vu une vache dans un pré inviter un taureau et se mettre à valser. Vous voyez, c'est pas possible. Non. Pourquoi ? Parce que le corps est fait pour brouter exclusivement. Vous voyez ? Et le crabe est fait pour pincer exclusivement. Alors, évidemment, il y a des oiseaux plus intelligents que d'autres espèces qui vont s'adapter. Le moment de l'apprentissage n'est pas un moment humain, il est préhumain. Il y a des animaux qui commencent à apprendre, etc. L'éthologie, aujourd'hui, a fait beaucoup de progrès. Il n'y a pas une telle séparation entre les animaux et les hommes. Mais enfin, les hommes ont ceci de particulier qu'ils peuvent apprendre et donc inventer. Et donc, la plus grande célébration que je puisse faire du corps, c'est le socle de toutes nos inventions. Voilà.
Que dire aujourd'hui d'une société qui prône un corps parfait, qui veut éviter à tout prix de vieillir ? On se maquille, on fait de la chirurgie esthétique. Là, je parle du visage, mais ça pourrait être, bien sûr, c'est valable pour tout
le
corps.
Vous savez, le maquillage date de très très... Puisque cosmétique, c'est un mot grec, vous voyez, les femmes grecques se maquillaient beaucoup, les femmes égyptiennes également. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour teindre ses cheveux, actuellement, 92% des femmes se teignent les cheveux dans le monde. Je ne parle pas du monde riche, je parle aussi du monde pauvre. Par conséquent, le cosmétique est très, 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 très répandu. Alors, ce n'est pas nouveau, et deux, c'est nécessaire. D'une certaine manière, je suis assez pour le cosmétique, alors que moi, je ne l'utilise jamais. Non, jamais. Mais je trouve qu'il y a là une invention du corps très intéressante, c'est-à-dire le cosmétique fait partie un peu du masque, fait partie aussi du jeu social, fait partie aussi du théâtre, de l'apparence, de la séduction, etc. De mille et une choses qui sont profondément humaines. Vous voyez, et je vais même aller plus loin. Je connais des volontaires, aujourd'hui, qui vont dans les hôpitaux, et en particulier dans les services de soins intensifs où on n'est pas loin de la mort, et qui proposent aux femmes en particulier des onguents, des cosmétiques, et elles, grâce à ça, ils leur font passer quelquefois des heures et des journées extraordinairement...
Pour se réapproprier leur corps.
Oui, absolument. Non seulement il y a des masseurs kinésithérapeutes dans ces services-là, mais aussi des visites parfois de cosméticiens, et du coup, ils passent des journées qui ne sont pas du tout à l'agonie, vous voyez. Donc, le cosmétique est plus profond qu'on ne le croit. C'est pas seulement...
Un aspect artificiel.
Non. C'est artificiel, évidemment, oui. Puisque c'est pas naturel. Mais c'est pas seulement du falbala, quoi. C'est assez profond dans l'anthropologie.
Je pensais surtout à ces images que l'on peut voir dans la rue, qui prônent des corps fins, lisses, bronzés.
Ils sont nouveaux, ces corps-là. Je le disais tout à l'heure, ce corps n'est possible. Par exemple...
Qui nous incite, finalement, à devenir
pareil.
Oui,
mais si vous aviez été dans l'Athènes du 5e siècle, on vous aurait proposé une Vénus de Cnide parfaite, on vous aurait proposé un corps d'Hercule extraordinairement costaud, on vous aurait proposé un corps d'Hermès parfaitement fin pour aller plus vite, etc. Donc,
on a toujours
la célébration du corps n'est pas tout à fait caractéristique de nos civilisations. Alors, qu'elle soit peut-être excessive, tout ce que vous voudrez, mais enfin, la grande civilisation grecque était partie d'abord d'une célébration du corps, c'est-à-dire les dieux étaient beaux. Et oui, Diane Chasseresse était superbe, Vénus était encore plus belle.
Vous en parlez comme si vous les avez connues, c'est très drôle.
Ça a été longtemps mes maîtresses.
J'imagine.
Vous voyez, donc il y a là quelque chose qui est plus stable qu'on ne le croit. Voilà.
Alors, pour préparer cette émission qui donc se termine, je précise à nos auditeurs que je me suis appuyée sur plusieurs de vos livres. Mm-hmm. Je ne vais en citer que quelques-uns, puisque
oui, bien sûr
vous en avez réalisé beaucoup, beaucoup plus que les trois que j'ai ici. Donc, Les Cinq Sens, que vous avez publié aux éditions Grasset en 91.
La traduction anglaise va paraître dans 2 mois.
Ah, ben vous voyez, en plus, nous sommes en plein dans l'actualité. Hein? Bien sûr, Ominescence
date d'il y a 2 ans.
Voilà,
oui.
Avec les éditions du Pommier, qui est donc les éditions qui travaillent beaucoup avec la Cité des Sciences, et vous participez, il me semble aussi, beaucoup. Vous faites partie du collège de la Cité des Sciences. Oui. Également, Variations sur le corps.
Qui est aussi aux éditions du Pommier.
Également, les éditions du Pommier. Et puis...
Et récemment, j'ai publié aux éditions du Pommier un livre qui est aussi un peu sur le corps, qui s'appelle « L'art des ponts », sur qu'est-ce que c'est qu'un pont, non seulement celui qu'on voit par votre fenêtre, ou ceux qu'on voit de Paris par votre fenêtre, mais aussi les ponts... des relations humaines, des ponts plus abstraits, des ponts plus vifs aussi, vivants, voilà.
Alors nous aurons peut-être également l'occasion d'en faire une émission.
D'accord.
Également, le dictionnaire du corps, sous la direction de Michela Marzano, effectivement, il n'a pas été dirigé par vous, mais peut-être ça viendra un jour. Et puis également, Jean-Claude Kaufmann, qui était venu aussi également nous rendre visite, sur son livre
«
L'invention de soi, une théorie de l'identité », et que donc vous connaissez bien.
Oui, je le connais parce que effectivement, nous faisons partie de l'Académie du vin de Bordeaux, tous les deux.
Ah, effectivement,
qui est une académie vraiment aussi respectable que celle où nous sommes aujourd'hui.
L'Académie française. Merci beaucoup, Michel Serre, de nous avoir rendu visite. Et puis, j'espère à très vite.
Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.